C'est en lisant qu'on devient liseron. La Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche vous invite, petits et grands, à ouvrir vos oreilles pour écouter des histoires racontées par les bénévoles de Lire et Faire Lire. Une émission réalisée conjointement par les radios ardéchoises, Radio des Boutières, Radio d'ici, Déclic Radio et Fréquence 7.
Le Petit Prince de Saint-Exupéry, chapitre 21. Le petit prince s'était couché dans l'herbe et il pleurait. C'est alors qu'apparut le renard. « Bonjour, » dit le renard. « Bonjour, » répondit poliment le petit prince qui se retourna, mais ne vit rien. « Je suis là, » dit la voix, « sous le pommier. » « Qui es-tu ? » dit le petit prince. « Tu es bien joli. »« Je suis un renard, » dit le renard. « Viens jouer avec moi, » lui proposa le petit prince. « Je suis tellement triste. »« Je ne puis pas jouer avec toi, » dit le renard. « Je ne suis pas apprivoisé. »« Ah, pardon, » fit le petit prince. « Mais... » Après réflexion, il ajouta « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Tu n'es pas d'ici, » dit le renard. « Que cherches-tu ?»« Je cherche les hommes, » dit le petit prince. « Qu'est-ce que signifie apprivoiser ?»« Les hommes, » dit le renard, « ils ont des fusils et ils chassent. C'est bien gênant. »« Ils élèvent aussi des poules. » C'est leur seul intérêt. Tu cherches des poules ? Non, dit le petit prince. Je cherche des amis. Qu'est-ce que signifie apprivoiser ? C'est une chose trop oubliée, dit le renard. Ça signifie créer des liens. Créer des liens ? Bien sûr, dit le renard. Encore pour moi qu'un petit garçon... tout semblable à 100 000 petits garçons. Et je n'ai pas besoin de toi, et tu n'as pas besoin de moi non plus. Je ne suis pour toi qu'un renard semblable à 100 000 renards. Mais si tu m'apprivoises, nous aurons besoin l'un de l'autre. Tu seras pour moi unique au monde. Je serai pour toi unique au monde. « Je commence à comprendre, » dit le petit prince. « Il y a une fleur, je crois qu'elle m'a apprivoisée. »« C'est possible, » dit le renard, « on voit sur la terre toutes sortes de choses. »« Oh, ce n'est pas sur la terre, » dit le petit prince. Le renard parut très intrigué. « Sur une autre planète ?»« Oui. » Il y a des chasseurs sur cette planète-là ? Non. Ça, c'est intéressant. Et des poules ? Non. Rien n'est parfait, soupira le renard. Mais le renard revint à son idée. Ma vie est monotone. Je chasse les poules, les hommes me chassent, toutes les poules se ressemblent et tous les hommes se ressemblent. Je m'ennuie donc un peu. Mais si tu m'apprivoises, ma vie sera comme ensoleillée. Je connaîtrai un bruit de pas qui sera différent de tous les autres. Les autres pas me font rentrer sous terre. Le tien m'appellera hors du terrier, comme une musique. Et puis, regarde, tu vois là-bas ? Les champs de blé ? Je ne mange pas de pain. Le blé pour moi est inutile. Les champs de blé ne me rappellent rien. Et ça, c'est triste. Mais tu as des cheveux couleur d'or. Alors, ce sera merveilleux quand tu m'auras apprivoisé. Le blé, qui est doré me fera souvenir de toi, et j'aimerai le bruit du vent dans le blé. » Le renard se tut et regarda longtemps le petit prince. « S'il te plaît, apprivoise-moi, » dit-il. « Je veux bien, » répondit le petit prince, « mais je n'ai pas beaucoup de temps. J'ai des amis à découvrir et beaucoup de choses à connaître. On ne connaît que les choses que l'on apprivoise, » dit le renard. « Les hommes n'ont plus le temps de rien connaître. Ils achètent des choses toutes faites chez les marchands. Mais, comme il n'existe point de marchands heureux, à 4 heures déjà, je m'agiterai et m'inquiéterai. Je découvrirai le prix du bonheur. Mais si tu viens n'importe quand, je ne saurai jamais à quelle heure m'habiller le cœur. Il faut des rites. » « Qu'est-ce qu'un rite ? » dit le petit prince. « C'est aussi quelque chose de trop oublié, » dit le renard. « C'est ce qui fait qu'un jour est différent des autres jours. » Une heure des autres heures. Il y a un rite, par exemple, chez mes chasseurs. Ils dansent le jeudi avec les filles du village. Alors, le jeudi est des jours merveilleux. Je vais me promener jusqu'à la vigne. Si les chasseurs dansaient n'importe quand, les jours se ressembleraient tous et je n'aurais point de vacances. Ainsi, le petit prince apprivoisa le renard. Et quand l'heure du départ fut proche, « Ah !» dit le renard, « je pleurerai. »« C'est ta faute !» dit le petit prince. « Je ne te souhaitais point de mal, mais tu as voulu que je t'apprivoise. »« Bien sûr !» dit le renard. « Mais tu vas pleurer !» dit le petit prince. « Bien sûr !» dit le renard. « Alors, tu n'y gagnes rien. » « J'y gagne, » dit le renard, « à cause de la couleur du blé. » Puis il ajouta, « Va revoir les roses. Tu comprendras que la tienne est unique au monde. Tu reviendras me dire adieu et je te ferai cadeau d'un secret. » Le petit prince s'enfuit revoir les roses. « Vous n'êtes pas du tout semblable à ma rose. Vous n'êtes rien encore, » leur dit-il. « Personne ne vous a apprivoisé. Et vous n'avez apprivoisé personne. Vous êtes comme était mon renard. Ce n'était qu'un renard semblable à 100 000 autres. Mais j'en ai fait mon ami et il est maintenant unique au monde. » Et les roses étaient gênées. « Vous êtes belle, mais vous êtes vide, » leur dit-il encore. « On ne peut pas mourir pour vous. »« Bien sûr, ma rose à moi, un passant ordinaire croirait qu'elle vous ressemble. »« Mais à elle seule, elle est plus importante que vous toutes, puisque c'est elle que j'ai arrosée, puisque c'est elle que j'ai mise sous globe, puisque c'est elle que j'ai abritée par le paravent. » Puisque c'est elle dont j'ai tué les chenilles, puisque c'est elle que j'ai écouté se plaindre ou se vanter, ou même quelquefois se taire, puisque c'est ma rose. » Et il revint vers le renard. « Adieu, » dit-il. « Adieu, » dit le renard, « voici mon secret. Il est très simple. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. » L'essentiel est invisible pour les yeux, répéta le petit prince afin de se souvenir. C'est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si importante. C'est le temps que j'ai perdu pour ma rose, fit le petit prince afin de se souvenir. « Les hommes ont oublié cette vérité, » dit le renard, « mais tu ne dois pas l'oublier. Tu deviens responsable pour toujours de ce que tu as apprivoisé. Tu es responsable de ta rose.
Je suis responsable de ma rose, répéta le petit prince afin de se souvenir.
C'était Le Petit Prince de Saint-Exupéry, chapitre 21, lu par Brigitte.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Le loup et le chien, d'après le poète français Jean de La Fontaine.
Un loup affamé errait dans la forêt en quête de nourriture lorsqu'il se trouva face à face avec un grand chien, aussi puissant que beau. Il l'aurait bien attaqué, mais le dogue était de haute taille. Aussi, le loup préféra-t-il l'aborder humblement. Il lui fait même des compliments sur son beau pelage et son embonpoint.
« Il ne tient qu'à toi d'avoir ma bonne mine, » lui répliqua le chien. « Quitte tes semblables, abandonne tes forêts où tu meurs de faim, et viens me rejoindre. » Mais que me faudra-t-il faire ? Bien peu de choses. Donner la chasse aux mendiants, flatter notre maître. Il te donnera en échange autant de nourriture que de caresses.
Le loup, dont la faim tenaillait le ventre, n'en croyait pas son bonheur. Et, sans plus attendre, il se mit en route avec le dogue. Mais, chemin faisant, il aperçut le cou pelé du chien.
« Qu'est-ce là ? » lui demanda-t-il. « Oh, rien. » Pas grand-chose. Mais encore, c'est à cause du collier avec lequel je suis attaché. Attaché ? Dit le loup. Tu ne cours donc pas où bon te semble ? Pas toujours, mais qu'importe. À mes yeux, cela importe bien plus que tout au monde. Et pour ce prix-là, je te laisse tes repas et même les plus grands trésors.
Sur ces mots, le loup s'enfuit vers la forêt où l'on prétend qu'il rôde encore. Le loup et le chien, d'après le poète français Jean de La Fontaine. Lu par Pierrot
et Salomon.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Cher Donald Trump, de Sophie Circe. Cher Donald Trump, je t'écris cette lettre de ma chambre à Bruxelles. Enfin, ma chambre. C'est plutôt notre chambre, parce que je dois malheureusement la partager avec mon grand frère, qui est, comme tu le dis si bien, une personne indésirable. Je t'ai vu à la télé ce soir. Tu disais que tu allais construire un mur. Peut-être que je devrais en faire un, moi aussi. Salutations distinguées, Sam. Cher Donald Trump, le problème, c'est que Mathieu, mon frère, joue toujours avec son téléphone pendant la nuit, même s'il n'en a pas le droit. Ça m'empêche de dormir. J'ai demandé à mes parents si je pouvais construire un mur entre nos deux lits. Ils ont dit non. Sincèrement, Sam. Cher Donald Trump, ce soir, pendant le souper, nous avons parlé des murs, le tien et le mien. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je ne suis pas très encouragée. Maman a dit que tu es comme tous les hommes qu'elle connaît. Tu parleras beaucoup de ton mur, mais tu ne le construiras jamais. Papa n'a rien dit. Respectueusement, Sam. Cher Donald Trump, aujourd'hui, tout le monde parlait de ton mur à l'école. Les autres enfants n'avaient pas l'air emballés par l'idée. Ils ne doivent pas partager leur chambre, eux. Notre instituteur a lancé un projet, les grands murs du monde. Il a expliqué que certains d'entre eux n'ont pas vraiment été des succès. Je lui ai dit que le mien en sera un. Amicalement, Sam. Cher Donald Trump, papa nous a emmenés à la pêche, Mathieu et moi. Il voulait parler du mur. Il nous a proposé de chercher ensemble une solution pour que ça se passe mieux entre nous deux. Je lui ai répondu que les actes parlaient plus fort que les mots. Je pense que c'est le genre de choses que tu aurais dit dans ma situation. Bien à toi, Sam. Cher Donald Trump, je crois que c'est vraiment mon truc, les murs. Si tu as besoin d'aide, tu sais où me trouver. J'en ai construit deux dans le jardin, dont un qui traverse l'étang en faisant un barrage. Papa trouve que celui en pierre et en sable ressemble un peu à la Grande Muraille de Chine, le plus grand mur jamais construit. Il m'a raconté qu'à l'époque, le but de ce mur était d'éloigner les envahisseurs. C'est exactement ce qu'il me faut. À la prochaine, Sam. Cher Donald Trump, mon frère est vraiment un envahisseur. Ce matin, il a pris mon croiseur impérial. C'est la guerre. J'ai dit à maman qu'on aurait pu éviter ça si elle m'avait laissé construire mon mur. Elle a ri. Je parie que personne ne rit de ton mur. Bonne nuit, Sam. Cher Donald Trump, j'ai emprunté quelques livres à la bibliothèque pour me documenter. La Grande Muraille de Chine est vraiment énorme. Le préféré de maman, c'est le vieux mur du Zimbabwe. Et j'ai découvert que le mur d'Adrien, qui traverse toute l'Angleterre, s'étend sur plus de 100 kilomètres. Ma chambre ne mesure que 4 mètres de long. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on fait tout un plat de mon mur. Colériquement, Sam. Cher Donald Trump, mon copain Sylvie m'a dit qu'on peut voir la Grande Muraille de Chine depuis l'espace. Mais, d'après Louise, ce n'est pas vrai. Quand je serai grand, je serai astronaute. Comme ça, je vérifierai moi-même. Toi, quand tu étais petit, tu voulais déjà être un bâtisseur de murs? Dans l'attente de ta réponse, Sam. Cher Donald Trump, j'ai passé le week-end chez mamie. Là-bas, j'ai ma propre chambre. J'adore. Et mamie me laisse faire tout ce que je veux. Mais cette nuit, j'ai entendu des bruits étranges. J'ai eu un peu peur. J'ai compté les murs entre ma chambre et celle de mamie. Il y en a 6. Je les ai comptés plusieurs fois avant de pouvoir me rendormir. Ciao, Sam. Cher Donald Trump, visiblement, ma famille a discuté pendant mon absence. Mathieu utilise maintenant des mots comme « harmonie » et « partage » et il prétend que le mur n'est pas nécessaire. C'est bien beau, mais ça ne m'a pas vraiment convaincue. À plus tard, Sam. Cher Donald Trump, je suis vraiment le seul à la maison à croire à mon mur. Pas grave, je vais le construire. Même si mon grand frère m'a demandé la permission d'emprunter mon canif, ce qu'il n'avait jamais fait avant, et même si, la nuit passée, il s'est caché sous sa couverture pour utiliser son téléphone. Bonne journée, Sam. Cher Donald Trump, j'hésite maintenant. Hier, mon grand frère a déposé mes vêtements propres sur mon lit. D'habitude, il les jette par terre. Je l'ai remercié et je lui ai rendu sa casquette que j'avais empruntée il y a 3 semaines. Depuis quelques jours, l'ambiance est bien meilleure. Pendant le repas, papa a dit qu'il était très fier de nous et il nous a raconté une très longue histoire à propos d'un mur à Berlin qui a été abattu. Il nous a dit que la négociation et la discussion sont toujours préférables à la séparation. Je crois que je vois ce qu'il veut dire. Au plaisir, Sam. Cher Donald Trump, désolé de t'écrire pour te dire ça, mais je pense que je vais abandonner le mur. En y repensant, c'est quand même bien d'avoir un grand frère dans sa chambre quand on vient de faire le pire cauchemar de sa vie. Dans le fond, je suis vraiment heureux de ne pas avoir construit ce mur. Je me sens un peu bête de changer d'avis comme ça. Mais mon frère est content et maman a dit qu'elle admire les hommes qui admettent leurs erreurs. Papa n'a rien dit. Bref, bonne chance pour ton mur à toi. Peut-être qu'un tout petit suffirait. Au revoir, Sam. C'était « Cher Donald Trump » de Sophie Circe, lu par Julie.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Le serpent et les villageois, un conte de l'Inde.
Près d'un petit village de l'Inde vivait un énorme serpent qui terrorisait les habitants, piquant à mort ceux qui passaient dans les parages. Excédé, les villageois allèrent en délégation trouver un sage pour se plaindre de sa méchanceté.
Le sage se rendit à son tour auprès du serpent. Il lui parla longuement, lui reprochant son inconduite. Que lui avaient donc fait les villageois ? Pourquoi tant de meurtres et de violences gratuites ? Il sut si bien trouver les mots que le serpent en fut bouleversé. Il jura de s'amender et il tint parole.
À compter de ce jour, il ne fut plus le même. Lui, le terrifiant reptile, devint une sorte de long ver maigre et flasque. Il perdit toute sa force, n'osant même plus avaler la moindre limace.
Les villageois, qui avaient une mémoire bien courte, en vinrent à se moquer de sa faiblesse. C'était bien la peine d'avoir des crocs venimeux pour ne jamais en faire usage. Les enfants, chaque fois qu'ils le croisaient, lui jetaient des pierres ou lui décocher quelques coups de pied. Au bout de plusieurs mois de cette vie, le serpent fut fatigué de tous ses coups reçus. Il traîna non sans peine jusqu'à la maison du sage. Et ce fut son tour de lui exposer ses problèmes.
J'ai fait tout ce que tu m'avais demandé, mais j'ai l'impression de n'être plus moi-même. Les villageois ne me craignent plus. Et tout leur respect d'antan s'en est allé. Ils me méprisent, ils me battent, et j'en ai le cœur qui saigne. Que peux-tu me dire ?
Ce que je peux te dire est fort simple, lui répondit le sage. Je t'ai interdit de piquer à mort les villageois sans raison. Mais t'ai-je interdit de siffler ?
Le serpent et les villageois, un conte de l'Inde, de Pierrot
et Salomon.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Trois cerises rouges de Evelyne Yanides. Trois cerises rouges, tout en haut d'un cerisier, se balancent. Je ne peux pas les attraper. Trois groseilles rouges, pendues à leur groseillier, se balancent, le pinson les a gobées. Trois petites fraises rouges, bien caché sous les fraisiers. Pas de chance, pas de chance. L'escargot les a sucés. Trois framboises rouges dressées sur leur framboisier. Je m'avance, je m'élance. C'est moi qui les ai mangées. C'était « Trois cerises rouges » de Evelyne Yanides, lu par Eliette.
Salomon et la fourmi amoureuse, d'après une parabole du poète persan Attar.
Le grand roi Salomon se promenait, dit-on, en un lieu retiré, lorsqu'il passa devant une fourmilière.
Aussitôt, toutes les fourmis vinrent par milliers pour le saluer et l'assurer de leur soumission.
Cependant, l'une d'entre elles l'ignora, car elle était occupée à déplacer grain par grain un énorme monticule de sable qui se trouvait devant elle.
Rempli d'étonnement, Salomon la fit appeler et lui dit
« Oh, petite fourmi, jamais tu ne pourras faire disparaître cette montagne de sable. La tâche que tu as entreprise n'est pas à la hauteur de tes forces. »
La fourmi lui fit une révérence,
mais répliqua
« Oh, grand roi, ne t'arrête pas à ma taille, seul contre mon ardeur et mon amour. Une fourmi m'a prise au piège de sa beauté, puis est partie en me disant
« Si tu détruis ce tas de sable, je ferai disparaître l'obstacle qui nous sépare. »
Aussi m'appliquerai-je à cette tâche jusqu'à mon dernier souffle. Et si je dois perdre la vie, au moins, je mourrai dans l'espoir de la rejoindre. Oh, roi, apprends d'une misérable fourmi ce qu'est la force de l'amour. Apprends d'un aveugle le secret de la vision.
Salomon et la fourmi amoureuse, d'après une parabole du poète persan Attar, lu par Pierrot
et Salomon. C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Le train de la vie de Jean d'Ormesson. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. Et on croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Pourtant, à une station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train. Elles seront importantes, notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne remarquera pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons, donc vivons heureux, aimants et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devons laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continuent leur voyage. Soyons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un des passagers de mon train. Et si je descends à la prochaine station, je suis content d'avoir fait un bout de chemin avec vous. C'était le train de la vie, Jean d'Ormesson, lu par Eliette.
C'était trop bien cette histoire. Et toi, ça t'a plu ?
Au pays des légumes, de Constantin Kaïtéris. Par un temps légumineux, je voyageais en citrouille, car il était plus de minuit. J'étais fatiguée, mes lentilles vertes me faisaient mal aux yeux. Je me dis « salsifie, salsifie » comme ça, et je m'arrêtais aux soins de la rhubarbe, dans une petite aubergine. Je pris une chambre qui donnait sur une jolie courgette fleurie et je dormais dans un brocoli moelleux. Quand je me réveillais, le soleil brillait de tous ses pétales. Il faisait artichaut, j'étais chou rouge. L'aubergine était très chère et comme je n'avais plus d'oseille, je suis partie, sans tambour ni trompette, en appuyant sur le champignon. Au pays des légumes, de Constantin Kaïtéris, lu par Eliette.
Vous venez d'écouter « C'est en lisant qu'on devient liseron », une émission de la Fédération des œuvres laïques de l'Ardèche, en partenariat avec les radios du département. Radio des Moutières, Déclic Radio, Radio d'ici et Fréquence 7.